Bonjour à tous, je suis Loelia et je suis très heureuse de vous retrouver sur RM pour une émission réalisée par les 5e 3. Tout d'abord, nous allons commencer par le micro-trottoir de Claire et Mina, puis une interview de Gauthier et Balavan, et enfin, un reportage de Mustapha et Yann.
Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons interroger des élèves du collège Marcel Rivière sur la consommation de l'eau chez eux. Pendant que tu te laves les mains, le corps, les cheveux ou encore les dents, laisses-tu l'eau couler ?
Non.
Ça gâche ?
C'est quoi les dents ? Je me lave jamais les dents.
Non, je rigole, je laisse pas.
Oui.
Oui.
Non ?
Bah oui.
Combien de temps passes-tu sous la douche ?
Environ 30 minutes. Ça dépend, 50 minutes ou 25.
Ça dépend. 30 minutes, 40 minutes, ça dépend.
Environ 35 minutes.
50
2 minutes.
Ça dépend parfois 1h30, parfois 1h. J'attends même les 2h parfois.
Moi aussi.
Prends-tu souvent des bains ?
Non.
Bah oui.
Non.
Non.
Un par mois.
Non.
Quand tu vas aux toilettes, tu appuies sur quel bouton de la chasse d'eau ?
Au milieu.
Toujours le gros, frère.
Au milieu, il y en a qu'un.
Le grand.
Ça dépend.
Le gros, surtout quand je fais caca.
Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions.
Bonjour à toutes et à tous, ici la radio Marcel. Nous allons faire une petite interview à Monsieur Blot. Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour les dépenses envers les énergies ?
Envers quel type d'énergie ? L'électricité, le gaz, l'eau ? Dans le collège, déjà, on fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de fuite. On surveille régulièrement toutes les arrivées d'eau pour éviter le gaspillage. Ensuite, tous les robinets sont équipés d'aérateurs qui permettent de consommer beaucoup moins d'eau quand on se lave les mains. Et les agents qui font le ménage sont équipés de matériel qui leur demande de consommer beaucoup moins d'eau par rapport à ce qu'ils avaient avant.
Ok, merci. Et quelle est votre énergie préférée ?
L'électricité.
Ok, merci. C'est bon, on a fini.
Très bien.
Au revoir.
On va poser des questions à Monsieur Dutour. Est-ce que vous avez quelques astuces pour limiter les dépenses d'énergie ?
Bonjour. La première, c'est s'éclairer la bougie. La deuxième, c'est de jeter toutes les voitures. Non, il faut... Alors, pour faire quoi ? À la maison ou tous les jours ?
Tous les jours.
Éteindre les lumières, il me semble que quand c'est pas nécessaire, ça sert à rien d'utiliser l'électricité pour rien. Et puis, venir en vélo plutôt qu'en voiture, ça permettra de limiter les dépenses en énergie fossile.
Je vous pose une deuxième question. Dans 30 ans, est-ce que les énergies se feront rares ?
Dans 30 ans, les énergies fossiles se feront très rares, certainement. Après, à nous de trouver des alternatives et trouver d'autres façons de produire de l'énergie pour que ce soit toujours disponible.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Les effets sur l'environnement. Aujourd'hui, l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture, mais également l'intensification des élevages constitue une menace pour la qualité de l'eau en France. À travers l'eau, c'est donc la santé et des écosystèmes aquatiques qui sont menacés avec des phénomènes d'eutrophisation communément appelés algues vertes.
L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement, négatives ou positives, engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits de sa conception à sa fin de vie.
L'étude de l'impact environnemental est un outil utilisé par la norme ISO 14001 et pour faire une analyse du cycle de vie.
Des études d'impact environnemental sur les milieux biophysiques et humains sont requises pour une majorité des projets. Elles sont nécessaires et obligatoires pour les projets d'envergure et sont habituellement assorties de mesures d'atténuation ou de mitigation ou de mise en valeur ou de formules compensatoires ou de mesures de conservation ou de restauration.
Ensuite, nous allons être en compagnie de Panelji et Matteo qui vont nous présenter leur interview sur l'énergie. Pour cela, ils ont interviewé le professeur de technologie.
Bonjour, c'est Panelji. Aujourd'hui, je vais interviewer Monsieur Fournier pour en savoir plus sur l'énergie. Bonjour.
Bonjour Panelji.
Avez-vous des panneaux solaires au collège ?
À ma connaissance, non.
D'où provient l'énergie utilisée au collège ?
Alors pour le chauffage, c'est une chaudière à gaz, et pour tout ce qui est éclairage et énergie diverse, c'est une énergie électrique.
Comment économisez-vous l'énergie au collège ?
En faisant attention, en éteignant les lumières, en fermant les fenêtres quand il n'y a pas besoin, etc.
Faites-vous du recyclage ?
Le recyclage classique à l'année avec les bacs jaunes, etc. Mais pas de recyclage particulier.
Avez-vous une voiture électrique ? Si oui, combien de temps met-elle à charger au max ?
Je n'ai pas de voiture électrique, je viens au collège à pied, ce qui est déjà écologique.
Merci. Au revoir.
Au revoir, Paneldi.
Yo tout le monde, c'est Mathieu sur Radio Marseille. Je vais vous faire une interview de Elodie, la surveillante. Donc, bonjour Elodie.
Bonjour.
Alors, utilisez-vous des poubelles de recyclage chez
vous ? Bien sûr.
Avez-vous des panneaux solaires ?
Non, j'ai pas de panneaux solaires.
Utilisez-vous beaucoup d'électricité ?
J'essaie de faire attention, mais normalement, oui.
Comment pensez-vous réduire votre facture d'électricité ?
En faisant attention à éteindre les lumières, par exemple, quand je quitte une pièce.
Avez-vous une voiture électrique ? Si oui, combien de temps met-elle à charger au maximum ?
Elle met 14 heures à charger ma voiture électrique, mais sinon elle peut charger en 8 heures.
Et c'est quelle marque ?
C'est une Nissan.
Au revoir et bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Donc là on va retourner dans la classe à Monsieur Jacob. J'espère que cette petite interview vous aura plu. C'était Matsko sur Radio Marcel.
Et maintenant, écoutons tous ensemble le billet d'humeur présenté par Maëlan et Loïc. Ils vont nous expliquer quelle énergie utiliser le plus et quelle énergie utiliser le moins, pour ne pas polluer la planète.
Bonjour, nous allons vous présenter un billet d'humeur sur les énergies.
Allez Maëlan, plus vite, plus vite, plus vite.
Ah, c'est drôlement fatigant de produire de l'énergie avec mon vélo d'appart.
Ouais, mais au moins ça pollue pas, et puis c'est renouvelable.
Mais je vais pas pédaler toute ma vie, punaise.
Bon, je vais te les trouver tes sources d'énergie propres.
Bon vent et ramène le soleil, parce que moi je veux regarder la télé. Eh mais tu sais Loïs, hier je suis allée en voiture chercher le journal.
Mais t'es une pollueuse.
Pourquoi? J'ai fait quoi de mal encore?
Bah tu sais très bien que quand tu utilises ta voiture, ça pollue parce que la voiture utilise de l'essence. Et quand tu fabriques un journal, ça n'utilise pas toujours des énergies très propres.
Bon ok, la prochaine fois je ferai attention, je prendrai le vélo de ma mamie.
Attends, Maëlan, hier quand je suis rentrée de l'aviron, j'avais froid comme tu veux pas savoir. Du coup je suis rentrée dans ma salle de bain, j'ai allumé tous les radiateurs et je me suis coulé un bon bain chaud.
Eh tu sais Loïs, ce n'est pas très bien d'allumer les radiateurs car ça utilise le pétrole qui n'est pas bon pour la terre.
Ouais, la prochaine fois je ferai plus attention, mais c'était juste pour mon bien-être. Bon, aujourd'hui Maëlan, nous allons faire un petit débriefing.
Moi ce que j'ai retenu, c'est que maintenant je vais pédaler et prendre ma douche en même temps. Et je vais me chauffer à la bougie, faire mon journal en même temps que je rame.
Maëlan, tu te rends compte ? Je t'ai appris ça depuis 2 mois et t'as toujours pas retenu.
Bon, je savais pas, moi j'ai mélangé. Fais-moi un petit résumé, s'il te plaît.
En résumé, il faut faire attention à la consommation d'énergie fossile et nucléaire. Exemple, éteindre la lumière quand nous sortons d'une pièce. Et utiliser plus d'énergie renouvelable. Exemple, mettre des panneaux solaires sur le toit de la maison.
Merci Loïs pour ces petites astuces.
On espère que ça vous a fait réfléchir sur comment utiliser les énergies pour ne pas polluer la planète. À la prochaine!
Nous revoilà, c'est Thibaut. Enchaînons tout de suite avec un reportage de Théo et Sana. Je leur laisse la parole.
La consommation d'eau en France n'est pas la même dans toutes les régions. Les habitants des régions du sud de la France consomment plus d'eau que celle du nord. Les habitants de régions Provence, Alpes, Côte d'Azur, dans le sud, consomme en moyenne 228 litres d'eau par jour. Chacun, alors que ceux de la région Nord-Pas-Calais, dans le nord, consomment en moyenne 109 litres d'eau par jour. Cet écart entre le nord et le sud vient de la différence de climat. Il est plus chaud et sec dans le sud que dans le nord de la France.
En France, 70% de l'énergie consommée provient des énergies fossiles, à savoir le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Le gaz et le charbon sont surtout utilisés dans les industries et le charbon et le pétrole sert surtout à faire de l'essence. Au fil des années, l'utilisation des énergies fossiles a diminué. Le charbon est remplacé par le gaz car les réserves de charbon françaises s'épuisent. Le pétrole est moins utilisé car il coûte de plus en plus cher et que la France cherche à diminuer la pollution des voitures.
Et maintenant, Pravan et Yanis vont interviewer pour nous le cuisinier et Madame Bouvarel. Ensuite, nous aurons les avis de quelques élèves interrogés par Brian et Félix.
Tout le monde, je m'appelle Yanis Merzouk. Je vais poser quelques questions sur les énergies renouvelables et les énergies fossiles sur Madame Bouvarel, qui vient du collège Marcel Rivière à Lagny-sur-Marne. Par exemple, de quoi sont composées les énergies fossiles, après vous, Madame Bouvarel?
Alors bonjour, donc en fait on appelle énergie fossile l'énergie produite par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Ce sont des combustibles issus de la transformation de matière organique enfouie dans le sol pendant des millions d'années. Aujourd'hui il faut savoir qu'elle représente plus de 3/4 de la consommation mondiale d'énergie, comme par exemple dans les transports, les industries ou le chauffage. Or ce sont donc des énergies épuisables, c'est-à-dire non renouvelables, coûteuses et qui peuvent être dangereuses pour l'environnement, avec des effets indirects tels que le réchauffement climatique ou l'augmentation, justement avec l'augmentation des gaz à effet de serre.
Comment les énergies renouvelables se transforment en électricité?
Alors, pour transformer ces énergies, en fait, celle-ci subit en fait une série de transformations avant d'être transportée et distribuée dans nos habitats. Par exemple, pour vous en citer un seul, il existe des centrales hydrauliques où là, la force de l'eau qui coule dans un fleuve crée du courant et active une turbine qui entraîne à son tour un alternateur qui produit de l'électricité. Ensuite, le courant est conduit vers un transformateur et celui-ci diffuse l'électricité dans les lignes haute tension. Donc là, c'est pour de l'énergie renouvelable.
Quand est-ce que le pétrole disparaîtra si nous continuons à l'utiliser, d'après les scientifiques?
Alors, d'après différentes sources, on estime qu'il pourrait y avoir une pénurie de pétrole pour d'ici 2050. Donc il faut évidemment favoriser l'énergie renouvelable, donc mettre en place davantage de structures pour remplacer progressivement les énergies fossiles.
Pourquoi la fracturation hydraulique est-elle dangereuse pour l'environnement?
Alors déjà, la fracture hydraulique, il faut savoir que, je rappelle que c'est le fait de fracturer des roches en injectant de l'eau et du sable, mélangés en fait à des produits chimiques pour en faire sortir les gaz de schiste. Donc c'est très dangereux. Alors c'est il y a eu des tentatives de mise en place de ce système pour récupérer les gaz en Seine-et-Marne et le problème c'est que ça peut créer donc des tremblements de terre, des glissements de terrain, de la sismicité, c'est assez dangereux. Ça peut aussi également polluer le sol, les nappes phréatiques, donc menacer les cultures des terres et en troisième dans un troisième temps, ça peut également menacer la biodiversité présente dans nos régions. Donc voilà, donc il faut militer contre la fracturation hydraulique si possible. Voilà.
Merci Madame Bouvarel, merci d'avoir écouté.
Merci, au revoir.
Comment économisez-vous de l'énergie?
Alors en fait, j'ai des minuteries sur mes différents modes de cuisson, sur le four. Et sur le bain-marie, en fait, j'ai un bain-marie et j'ai des armoires électriques. Donc, je les programme le matin au plus près du service. C'est-à-dire qu'elles s'allument toutes seules à partir de 9h30. Les aliments, je les cuis aussi au dernier moment de façon à ce que j'utilise pas les étuves et les choses chauffantes. Donc, en fait, je gagne de l'énergie en cuisinant au plus près du service.
D'accord. Pensez-vous utiliser beaucoup d'énergie globalement?
Oui, je pense que ouais, c'est un poste de dépense assez important, notamment au niveau du gaz et de l'électricité. parce qu'en fait on a des sauteuses qui consomment énormément de gaz. Et sachant par exemple qu'un bourguignon ça demande une cuisson lente, donc il faut compter grosso modo 3h30 de cuisson quand je fais des plats en sauce. Et j'ai des frigos, des chambres froides qui sont allumées toute l'année et qui consomment énormément. Plus 3 congélateurs. Donc moi, en cuisine, c'est un poste de dépense assez important, l'énergie.
D'accord. Pensez-vous que vous, quel objet utilise le plus d'énergie après vous ?
Pour moi, ça doit être les fours. Hein. Parce que les fours, quand on demande à un four de chauffer à 300 degrés très rapidement... ça doit vraiment consommer énormément d'énergie. Je sais pas combien de watts ils font, mais c'est des fours qui coûtent très cher et qui sont extrêmement puissants. Donc, je pense que la principale des dépenses, c'est les fours.
Voilà. Ok. Ben, merci.
Bonjour. Est-ce que je peux te poser quelques questions à propos de l'environnement ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu fais du recyclage chez toi ?
J'essaye d'en faire le maximum, mais on peut pas vraiment. On habite dans un immeuble où la copropriété décide de ne pas mettre de poubelle de tri.
Oui, avec les différents conteneurs qu'il y a, du compostage, les conteneurs jaunes pour les journaux et les cartons.
Utilises-tu un récupérateur d'eau chez toi ?
Oui, sur le toit.
Non, j'ai pas de récupérateur d'eau.
Avez-vous des panneaux solaires chez vous ?
Non, j'ai pas des panneaux solaires, mais j'ai un poêle à pellets, je sais pas si vous connaissez. C'est un poêle en fait qui fonctionne avec des granulés de bois. Et c'est très écologique aussi. Donc c'est, je me chauffe comme ça, moi.
Merci bien.
Aujourd'hui, nous accueillerons Aurélie et Belveda pour un reportage sur la consommation d'eau. Puis, 4 flashs à faux d'Ornelia et Sonia sur l'énergie dans l'eau.
Reportage de la consommation de l'eau dans le monde. La consommation d'eau sur la planète atteint 4 milliards de mètres cubes, soit 1,3 million de litres d'eau chaque seconde, 127 mètres cubes par seconde, ce qui est supérieur aux capacités de renouvellement des réserves. Au rythme de croissance actuel, la consommation mondiale d'eau atteindrait 4,7 milliards de mètres cubes par an d'ici 2020, soit plus 4 km cubes d'eau. L'eau douce sur Terre. Combien d'eau douce sur Terre ? Il y a 85 millions de kilomètres cubes d'eau douce dans le monde, mais près de 70% se trouvent sous forme de glace et 30% sous la terre.
L'eau sur Terre représente environ 3 milliards de tonnes, soit un demi-millième de la masse terrestre seulement. L'eau terrestre a été apportée par environ 10 millions de comètes et d'astéroïdes tombés sur Terre entre 50 et 100 millions d'années après la formation de la planète. L'eau douce est globalement l'eau qui est hors des océans et la banquise arctique composée d'eau salée, 97%. Sur le 3% d'eau douce, 2,1%, soit 60% du total de l'eau douce, sont gelées autour des pôles dans les Arctiques ou dans les glaciers et neiges éternelles de la montagne. Il y a donc 40% d'eau douce non gelée. Une grande partie de l'eau n'est pas directement utilisable par l'humanité.
L'accès à l'eau potable dans le monde. Avec l'augmentation de la population humaine, l'accès à l'eau potable est de plus en plus difficile dans certains pays. 11% de la population mondiale, soit 768 millions d'individus, n'avaient pas accès à l'eau potable en 2011. On estimait cette proportion à 23% il y a près de 20 ans.
Chacun doit faire sa part pour atteindre l'objectif de développement durable consistant à diviser par deux le niveau des eaux usées non traitées et promouvoir la réutilisation d'une eau sûre d'ici 2030. Ce rapport rappelle que les 2/3 de la population mondiale vit actuellement dans les zones qui souffrent de manque d'eau pendant au moins un mois par an. Dans le même temps, il souligne que probablement plus de 80% des eaux usées du monde sont rejetées sans traitement.
Le monde doit rapidement abandonner les combustibles fossiles s'il veut éviter une hausse catastrophique de la température de la planète, selon des rapports publiés par 2 agences. Par contre, de nouvelles mesures provoqueraient également des économies grâce à une amélioration de l'efficacité énergétique. le scénario de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables prédit notamment que plus d'emplois seront créés que perdus. En matière d'économie d'énergie, les restaurants ont réussi à réduire leur consommation énergétique grâce aux différentes actions mises en place, explique Fabien Birando, responsable technique Arcos Dorados Guadeloupe. Outre la récupération des huiles, dispositif réglementaire mis en place depuis plusieurs années, la quasi-totalité des restaurants pratique déjà le tri sélectif des cartons qui sont livrés à un centre de recyclage de plus. Tous nos restaurants étaient équipés d'un éclairage LED. L'eau qui a été épuisée dans les stations d'épuration sont rejetées dans les rivières ou fleuves, puis souvent réalisées par les agriculteurs. En France, nous utilisons 0,2% des eaux usées sortant des stations d'épuration, alors qu'en Espagne, environ 10% est réutilisée. Les stations redonnent une qualité suffisante à l'eau pour plusieurs usages. Mais elle est très peu réutilisée, c'est un vrai gâchis.
Nous remercions les 5e 3 d'avoir participé à l'émission avec nous.
Nous remercions aussi toutes les personnes interrogées, les élèves, les professeurs,
qui ont répondu à nos questions.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.